bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour ce invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir Albert Duclos pour son dernier livre aux éditions de Boré, Les Dames de Fontanges. C'est le tout dernier roman de Albert Duclos. Bon, on va être avec lui dans quelques instants. Ça sera notre invité du jeudi, Albert Duclos, Les Dames de Fontanges. Voilà donc, aujourd'hui, notre invité du jeudi sera Albert Duclos, qui a sorti un dernier roman qui s'appelle Les Dames de Fontanges aux éditions de Boré. Alors bien sûr, Albert, c'est un habitué de Radio Craponne, c'est quelqu'un qui sort énormément de romans. Eh bien, on va voir avec lui pour parler de ce dernier roman. Albert, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, je suis heureux de te revoir.
Ben moi aussi. Donc, on va parler de ce nouveau roman, comme je disais. Alors, t'en es à ton combien?
Parce que moi, c'est le 24e.
Ah oui, carrément, ouais.
24e, donc, ouais, oui. Deux douzaines.
Deux douzaines, ouais, deux douzaines. Ce qui fait que... Donc... toujours chez de Boré. Hein,
toujours chez de Boré,
fidèle. Ton éditeur,
ouais, oui, fidèle. Je suis bien là-bas. Alors. Ouais. Alors, quand on est bien quelque part, pourquoi aller ailleurs,
hein? Exactement. Donc c'est vrai que tu as abordé à peu près tous les thèmes dans tes romans. Hein,
oui.
Mais celui-là a l'air d'être un petit peu plus particulier. Non?
Oui, c'est un roman historique qui se passe au début du règne de Louis XIV. Et alors, cette idée m'a été inspirée par le maire de la commune de Fontanges. Fontanges, c'est un petit village au pied de Salers, dans le Cantal. Je pense que beaucoup d'habitants de Haute-Loire sont allés visiter Salers. C'est, ouais, à mon avis, l'un des plus beaux sites d'Auvergne, ce qu'on appelle la Haute-Auvergne, quoi. Et donc, à cette époque, à l'occasion d'une chasse à cour, les chasseurs avaient traversé un champ de blé au grand galop, et c'était l'époque des moissons, et tous les paysans y étaient, les gamins aussi pour donner le coup de main. Et puis il y a un cavalier qui a renversé un gamin, et le pauvre, ben, on n'a pas pu le sauver, il en est mort, et ça a provoqué une véritable révolte de paysans. Et ça, c'est le fait historique que m'a raconté le maire de Fontanges, et j'en ai fait ce roman.
Voilà. D'accord, donc tu es parti d'un fait réel.
Oui, voilà.
Et pour faire le roman. Alors, comme toujours, toi, tu vas sur les lieux,
oui,
où se déroulent tes romans, oui, et oui, là, tu as continué de faire la même chose.
Oui, bah, c'est-à-dire que chaque année, la libraire de Salers, Célia Grandjean, organise un salon du livre à Salers et également un salon du livre à Fontanges. Et comme, d'accord, souvent dans ces salons du livre à la campagne, la municipalité offre à midi le verre de l'amitié. Et j'ai eu l'occasion de parler avec le maire, et il m'a dit, mais vous savez, monsieur Duclos, ici, il s'est passé quelque chose qui pourrait vraiment vous donner l'idée d'un roman. Et puis, il m'a expliqué. Et puis, j'ai fait un travail de recherche, je suis allé aux archives municipales, et puis je me suis lancé dans l'écriture. Voilà.
D'accord. Donc, alors, bien sûr, c'est romancé, hein, on l'a compris.
Ah bah oui, évidemment.
Évidemment, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a intéressé pour revenir à cette époque de Louis XIV?
En fait, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était le début des Gilets jaunes, hein, c'était en 2019. Et puis les jacqueries, alors les jacqueries, c'était les révoltes de paysans. Ouais. Pourquoi on les appelait les jacqueries? Parce qu'à cette époque-là, les paysans, on les appelait les jacques. Donc ouais, quand les paysans, ça, ouais, se révoltaient, c'était une jacquerie. Mais dans ce roman, il y a deux romans, il y a deux histoires. À cette époque, les grandes dames n'élevaient pas elles-mêmes leurs enfants. Elle ne les allaitait pas elle-même, elle confiait ce soin à une nourrice. Et au moment où la marquise de Fontanges accouche, met au monde un bébé, un petit garçon, il y a au village de Fontanges une paysanne, Catherine, qui accouche également, mais malheureusement, son bébé ne vit pas. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la mortalité infantile était terrifiante. Il y avait un bébé seulement qui vivait, les autres mouraient. Et alors, elle a plus son bébé, mais elle est en état d'allaiter. Donc la marquise de Fontanges la contacte et lui propose de devenir la nourrice de son enfant à elle, le petit Côme. Et bien sûr, Catherine en parle à son mari, et puis finalement, chez eux deux, c'est la misère la plus absolue. Ils vivent dans une espèce de tanière, et elle accepte, parce qu'au moins comme ça, elle mangera sa faim. Elle vivra dans un château, elle sera bien habillée, puis elle aura même une petite solde, quoi, voilà.
Voilà, donc le début de l'histoire, c'est ça.
Oui, et alors ce qui va se passer, c'est que Catherine va se révéler une excellente nourrice. Elle va acquérir la confiance du marquis et de la marquise de Fontanges. Mais en même temps, elle reste paysanne. Et lorsque cette révolte de paysans éclate, eh ben, elle est partagée en deux, parce que son cœur est avec les révoltés. Mais elle est également la nourrice du fils de la marquise et du marquis de Fontanges. Et alors, elle hésite, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, et le chef des révoltés lui dit « Surtout, surtout, tu restes au château, tu écoutes, tu gardes bien la confiance du marquis et de la marquise, et tu nous tiens au courant de tous leurs projets, de leurs plans pour mater la révolte. »
D'accord. Oui, parce que, bon, c'est vrai que c'était... un peu quand même, la chasse à course est une chose, mais ils auraient pu faire un petit peu attention, mais là c'était tellement à l'époque...
Oui, alors quand on parle aujourd'hui, quand on parle de Louis XIV, du Roi Soleil, tout le monde voit Versailles, et puis tous les artistes et tout, et ouais. C'est vrai. Mais ça c'était le haut, mais en bas le peuple était dans la misère. Il y avait des famines... Il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui se révoltaient, c'était vraiment pas... C'était, le siècle de Louis XIV, c'était excellent pour ceux qui étaient en haut,
oui. Mais
pour ceux qui étaient en bas, c'était terrible.
Oui, c'est ça.
C'était terrible, il faut le dire.
Il souffrait beaucoup.
Il faut le dire.
Donc, on va voir qu'ils vont se révolter, et un peu grâce à Catherine, hein, puisqu'elle connaît le château par cœur, donc elle va permettre aux insurgés de venir chez le marquis et la marquise.
Oui, voilà. Et puis alors, il y a aussi autre chose, c'est que au début du règne de Louis XIV vient de se terminer une guerre qui a duré 30 ans, qui a fait un véritable massacre sur l'Europe entière. Et à cette époque, il n'y a pas comme aujourd'hui des armées permanentes. Quand une guerre éclate, on constitue une armée, et puis quand la guerre est finie, on licencie les soldats. Et alors ces paysans, ils ont des fourches, mais ils savent pas se battre, ils savent rien de l'art militaire. Et il y a deux paysans de Fontanges qui s'étaient engagés dans l'armée pour pouvoir manger à leur faim. Cette guerre terminée, ils reviennent, et eux, ils ont appris à se battre. Alors, ils vont prendre la tête de la révolte, et c'est eux qui vont imaginer ce qui suit.
Oui, non.
Oui, voilà. Donc,
voilà.
Un soir, ils réussissent, grâce aux indications justement de Catherine, ils réussissent à pénétrer dans le château. Ils vont jusqu'aux appartements. Ils tirent de leur lit le marquis et la marquise de Fontanges, et ils les obligent à sortir du château pieds nus, en chemise, et ils les obligent à traverser tout le village. Et à demander pardon aux villageois de la mort de ce petit garçon.
Oui, c'est quand même une sacrée humiliation pour des nobles.
Tout à fait. Et alors, bien sûr, le marquis et la marquise de Fontanges sont tellement humiliés, mais le marquis surtout décide de se venger. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'adresser directement au gouverneur de l'Auvergne, à Salers, pour lui demander des troupes pour mater cette révolte. Mais le problème, c'est que des troupes, il n'y en a pas. Parce que le roi est de nouveau en guerre. Alors pourquoi est-ce qu'il est en guerre ? Parce que quand il s'est marié avec la fille du roi d'Espagne, il avait été convenu que le roi d'Espagne donne à sa fille une dot de, tiens-toi bien, 550 000 écus d'or. Et ça, c'est l'histoire. Ouais. C'est une somme énorme, fabuleuse. Et l'Espagne, elle était ruinée à cette époque. Et alors, en contrepartie, si la dot n'était pas payée, les Pays-Bas, alors les Pays-Bas, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la Belgique et la Hollande, qui étaient possessions espagnoles, devaient revenir au roi de France en titre de dot. Et le roi d'Espagne meurt, pas un sou dans les caisses pour payer la dot. Donc Louis XIV fait valoir ses droits. La Hollande, la Belgique, les Pays-Bas, je les prends. Seulement le problème, c'est que ça, ce sont des paroles. Mais dans la pratique, les habitants des Pays-Bas, c'est-à-dire les Belges et les Hollandais d'aujourd'hui, ne sont pas du tout d'accord. Ils viennent de quitter la tutelle de l'Espagne, c'est pas pour rentrer sous la tutelle de la France. Donc ils vont se battre. Et Louis XIV, ben, il est obligé de rassembler des armées immenses pour envahir la Belgique et la Hollande, enfin les Pays-Bas. Et pendant ce temps-là, ben, à l'intérieur, il n'y a pas de troupes pour mater la révolte des paysans.
D'accord, voilà, donc ils se retrouvent complètement démunis. Ça, à travers ce roman, bon, il y a beaucoup d'histoires quand même.
Hein, ah oui, moi j'ai fait d'abord j'aime l'histoire, et puis je suis quand même pas trop nul en histoire, je connais un peu. Et puis c'est vrai que j'ai fait un travail assez important de recherche sur cette jacquerie du XVIIe siècle.
Oui. Oui, bien, on a eu un célèbre film en Auvergnat.
Oui, bah, bien sûr. Oui, bah, tout à fait.
C'est tourné tout près de chez
nous.
Oui,
hein. Mais exactement. Mais il y en a eu partout en France.
Ouais, hein. Ouais.
Madame de Sévigné, par exemple, elle était bretonne, Madame de Sévigné. Bon, elle avait son gendre et sa fille à Grignan.
Oui.
Mais puis elle avait également un hôtel à Paris. Et c'était une grande dame. Elle vivait partout. Mais elle avait de naissance, elle était bretonne. Et une année, en rentrant en Bretagne, chez elle, qu'est-ce qu'elle aperçoit ? Elle dit dans ses lettres, les branches des arbres pliées sous le corps des pendus. Parce que lorsqu'il y avait une révolte des paysans, tous ceux qui s'étaient révoltés, les armes à la main, on les pendait. Il y avait trois peines de mort, si tu veux, dans le royaume de France. Le peuple qui était condamné à mort, parce qu'il s'était révolté ou autre, parce qu'il avait commis des crimes, était pendu. Ensuite, les nobles qui avaient trahi le roi, parce qu'il y avait des nobles aussi qui se révoltaient contre le roi, qui traversaient le roi, ils étaient condamnés à être décapités, la tête sur le billot et un coup de hache. Bon. Et puis, les soldats qui avaient trahi ou qui s'étaient mal battus, eh ben, ceux-là, ils étaient fusillés. Voilà. Il y avait trois peines de mort, selon la classe sociale à laquelle, par exemple, alors il y avait aussi des peines supérieures pour ceux qui avaient commis des crimes qu'on considérait épouvantables, tuer le roi, par exemple, Ravaillac. Alors là, ils étaient mis sur la roue, on leur fracassait les membres, et quand ils étaient fracassés, on attachait les deux bras et les deux jambes à quatre chevaux de trait, des gros chevaux, et on les écartelait. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Le dernier qui a été écartelé, qui a été roué vif et écartelé, ben, c'est pas loin d'ici, c'est le célèbre mandrin à Valence. Quoi. Voilà.
Ah oui,
ouais, le mandrin.
Voilà. Et ouais. Voilà donc dans les Dames de Fontanges. Donc t'as intitulé ce titre les Dames de Fontanges. Elles ont un grand rôle là dans ce.
Oui, parce que en fait, c'est le combat de deux femmes. Il y a là, j'en arrive à la deuxième partie de mon roman. C'est le combat de deux femmes. C'est le combat de la marquise de Fontanges contre Catherine. Pourquoi ? Parce que la marquise de Fontanges décide un jour de récupérer son enfant. Elle décide de récupérer son enfant, le petit Côme, pour l'élever comme doit élever le fils d'un marquis, et non pas à la paysanne comme l'élève Catherine.
Ouais.
Mais Catherine, elle l'a élevé, cet enfant. Elle l'a allaité, elle l'a nourri, elle le considère comme son fils. Elle ne peut pas accepter que la marquise lui reprenne son enfant. Pour lui, c'est son, pour elle, c'est son enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, une nuit, elle prend l'enfant dans ses bras, elle descend aux écuries du château, elle saute à cheval, d'où la couverture.
La couverture.
Les chevaux, les cavalcades jouent un rôle très très important dans ce roman,
ouais.
Et elle se sauve, voilà.
Donc voilà, donc ça c'est la. Elle va se sauver, bien sûr, alors ça va. Sûrement.
Et d'où le titre, parce que alors la marquise de Fontanges, ben, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire comme son mari, elle va essayer de réquisitionner des troupes pour retrouver Catherine et retrouver son enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Catherine ? Eh bien, à cette époque-là, dans les forêts, mais j'avais déjà fait un roman ici, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Les Dames Blanches.
Oui.
Dans les forêts, parce que dans les villes, il n'y avait pas de charbon de mine, hein. On se chauffait au charbon de bois, on ne se chauffait pas avec du bois coupé, parce que c'était trop volumineux, ça ne tenait pas. Et alors le charbon de bois, il était préparé en forêt par les charbonniers, c'est-à-dire qu'on faisait des piles de bois, on les recouvrait d'argile, de terre glaise, on mettait le feu et on attendait que doucement, le plus doucement possible, lentement possible, le bois charbonne, d'où son nom, et se transforme en charbon de bois. Et ensuite, les charbonniers qui faisaient ça, bah, qu'est-ce qu'ils allaient ? Ils prenaient le charbon de bois et ils allaient le vendre dans les villes. Les gens se chauffaient au charbon de bois, ils ne chauffaient pas avec du bois. Et alors, pendant que les charbonniers préparaient le charbon de bois, leur compagne, elle parcourait les forêts. Elle recueillait toutes sortes d'essences végétales, des feuilles, des fleurs, des racines, etc. Et elles en faisaient diverses préparations, des médicaments, des drogues, des cosmétiques, mais aussi des aphrodisiaques et parfois même des produits. Elles allaient les vendre sur les marchés. Seulement, le problème, c'est que vivant en permanence dans les cabanes des charbonniers, vivant dans les forêts, elles n'étaient pas très propres. Alors, avant d'aller sur les marchés, elles se déshabillaient complètement, elles entraient dans les rivières, elles se lavaient, et ensuite, elles se revêtaient d'une aube blanche. C'est pour ça qu'on les appelait les dames blanches. D'accord. Aujourd'hui, on parlerait d'herboristes.
D'accord.
Mais elles avaient également d'autres talents, et en particulier celui qui est recherché aujourd'hui, par exemple par les gens qui se sont brûlés ou qui ont eu un zona, elles étaient des coupe-feu.
D'accord.
Et lorsque le marquis de Fontanges veut se venger, il allume un feu et il essaye de faire parler une autre femme parce qu'il veut savoir où sont passés les révoltés. Et à ce moment-là, la blanche prend un tison enflammé, il brûle le marquis, et le marquis il rentre au château en hurlant. Et finalement, l'une des servantes de la marquise, qui a vécu en forêt avant de venir au château, elle parle de ces dames blanches. Elle dit : « Mais moi, je connais une femme qui est capable de couper le feu. » Voilà.
D'accord.
Et ils vont aller les chercher en forêt. Voilà.
D'accord. Alors, donc, on est avec Albert Duclos pour parler de son dernier roman aux éditions de Boré, Les Dames de Fontanges. Je vais faire un petit break musical. Alors, j'ai trouvé quelque chose sur la jacquerie.
Ah, c'est bien.
C'est
ça.
Une chanson du livre, nous dit-on, de Clavius Sartor.
Très
Alors,
bien.
On va s'écouter ça, puis on se retrouve tout de suite après.
Les enfants du monde paysan, n'ayant que pour fortune nos bras et la patience, survivant de misère depuis la nuit des temps, nous fûmes condamnés à périr dans les champs. Ils nous promettent de cieux pour toute récompense, pendant que tous les nobles s'arrondissent la panse, intimes à la couronne et aux brigands de la cour. Ils jouissent de terre et de gloire à la naissance. Compagnons de misère, allons-nous libérer. Nous emparerons des jachères et des vignes, au diable le seigneur et les taxes du clergé. Révolterons et nous ferons justice. Réveillez vos rebelles, ouvriers et paysans, de toutes les ruelles nous ferons entendre, car voici la tempête qui règne dans les champs. Pour partir à la guerre contre tous les tyrans, car voici la tempête qui règne dans les champs. Pour partir à la guerre contre tous les tyrans.
Voilà, donc, ben oui, voilà une chanson sur la jacquerie. C'est vrai qu'à l'époque, hein, c'est ce qu'on disait hors antenne avec Albert, ben, le peuple, hein, il souffrait quand même pas mal. À un moment, ben, il se révoltait. Alors bon, ben, le roman va continuer, bien sûr, puisqu'il faut que la marquise de Fontange retrouve Catherine, et ça va peut-être pas être très simple.
Non, ça va pas être très simple, parce que Catherine et le petit vont se réfugier justement dans la forêt des charbonniers et des dames blanches. Et le marquis, qui sait que c'est dans cette forêt qu'elles sont récupérées, va rassembler des soldats, parce qu'entre-temps, la guerre de Hollande s'est terminée, donc il peut de nouveau avoir des soldats, et ils vont se lancer dans cette forêt pour attaquer les paysans. Mais les charbonniers connaissent la forêt absolument par cœur. Ils vont tendre des tas de pièges. Et du coup, l'attaque du marquis de Fontange non seulement va échouer, mais en plus, le marquis de Fontange va être tué. Et alors, à ce moment-là, les deux femmes, les dames de Fontange, c'est-à-dire la marquise de Fontange et Catherine, vont comprendre que pour elles, la seule solution par rapport à cet enfant, c'est de se réconcilier. Seulement, le problème, c'est que le bruit de cette révolte est arrivé aux oreilles du roi, et le roi, lui, il estime qu'il faut écraser tout ça, quoi. Et alors, la marquise de Fontange, c'est une grande dame, c'est pas n'importe qui. Elle a ses entrées à la cour. Et finalement, la marquise de Fontange et Catherine, avec le petit Côme, elles vont décider de monter à cheval et d'aller jusqu'à Paris pour rencontrer le roi et le supplier de pardonner. Alors, quand elles arrivent dans la région parisienne, le roi est à la chasse à Fontainebleau, dans la forêt de Fontainebleau, et elles obtiennent un rendez-vous avec le roi au château de Fontainebleau. Et elles vont tout expliquer au roi, elles vont tout lui dire, et en particulier Catherine va lui expliquer dans quelle misère vit son peuple. Le roi va entrer en profonde réflexion, et finalement, il va comprendre qu'il y a des tas de choses qu'il ne sait pas, et il faut absolument qu'il s'en préoccupe. Et il va accorder son pardon à Catherine, et également à ceux qui ont attaqué donc ces paysans. Voilà.
D'accord, donc voilà, alors ça va réconcilier les deux femmes.
Oui.
Mais il reste quand même le problème de l'enfant, parce que...
Oui, alors le problème de l'enfant, c'est que... Et alors là, ça se termine bien, parce que j'aime bien que mes romans se terminent bien, c'est un roman. Catherine, après, elle a une petite fille avec son mari. Ils se retrouvent. Elle a une petite fille, et cette petite fille est jolie comme tout. Et puis finalement, le petit Côme, le fils du marquis de Fontange, tombe amoureux de la fille de Catherine. Et tu devines comment ça va se terminer. Voilà.
Ah ben, il faut lire le roman.
Ah ben, bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'est un très beau roman, il marche très bien. Oui. Il a déjà fait deux réimpressions, donc oui, je suis content.
Ouais,
ouais, ça marche bien.
Il y a quand même un imbroglio, là.
Hein, oui, oui.
Mais c'est bien, oui, tu disais, toi, t'aimes bien que tes romans se finissent.
Ah oui, oui. Moi, je sais que le premier roman que j'ai écrit... il s'était mal terminé. Mon héros principal sympathique était mort, et il y avait une lectrice, mais j'étais en dédicace à la maison de la presse de Retournac. À cette époque-là, il y avait encore une maison de la presse à Retournac, et puis elle m'a dit: oh, mais pourquoi vous avez tué Alexis, pourquoi vous avez tué Alexis? Et ça m'a marqué, hein. Je sais qu'un roman doit se terminer bien, voilà. Parce qu'en fait, dans un roman, tu as trois personnages principaux. Tu as le personnage central, oui. Il doit être sympathique.
Oui.
Ensuite, tu as deux personnages secondaires. Il y en a un qui est antipathique, et puis une, en principe, c'est une femme, qui est sympathique. Et ben, il ne faut pas toucher aux deux personnages sympathiques. Il faut uniquement l'antipathique. Voilà.
Donc voilà, c'est comme ça la base de tes romans. Donc.
Ah oui, mais j'aime bien partir d'un fait réel, et puis bon, il y a ce triangulaire, quoi, voilà.
Donc, Les Dames de Fontange, Albert Duclos, tu dis qu'il marche bien, hein, chez Debouré. Il est sorti à la fin de l'année...
Oui, en janvier. Tous mes romans, je les fais toujours sortir en janvier.
Janvier 2022.
Oui, parce que en mois de septembre, il y a tellement... Cette année, il y a pas loin de 600 romans qui sont sortis au mois de septembre. Donc c'est trop, ça passe inaperçu. Moi, je m'appelle pas Guillaume Musso. Hein. Donc je préfère les faire sortir en janvier. Il y a peu de romans qui sortent en janvier. Puis en plus de ça, mes lecteurs me connaissent. Ou plus exactement mes lectrices, parce que 90% du lectorat de romans, ce sont des dames, hein. Eh bien, elles savent que chaque année au mois de janvier, j'ai un nouveau roman qui sort. Quoi, voilà.
Et donc, elles te suivent.
Oui. D'ailleurs, récemment, la libraire de Craponne, là, au Plaisir des mots, m'a appelé et je vais venir faire une dédicace au mois de juillet.
Voilà. Marie-Pierre.
Oui. Bah. Voilà.
Bon, bah, c'est toujours sympa. Hein, c'est...
Ah oui. Et
puis, dédicace, bon, comme les salons, tu rencontres tes lectrices ou tes lecteurs.
Oui, hein. Mais j'aime bien faire la. Je vais un peu partout en Auvergne. Là, je voyais, il y a 15 jours, j'étais à Aurillac. La semaine dernière, j'étais à Brioude. Et puis là, ce samedi, je suis invité par une personne que tu connais bien et qui est notre ami à tous les deux, Pascal Blasi.
Ah, bah oui, Pascal.
Et je vais venir. Ben, une fois, tu te souviens, tu étais venu toi-même.
Ah, bah,
et je vais le présenter à la médiathèque de Saint-Paulien. Voilà.
D'accord, bon, ben. Voilà, donc je dirais que ce roman marche bien, ben tant mieux. Et puis, c'est vrai que la couverture est sympa.
Oui, elle est différente des autres.
Oui, t'as mis un joli cheval.
Oui, oui, elle est différente. Oh, c'est pas moi qui m'y
Non, mais je comprends bien.
Oui, mais elle est différente des autres.
Oui, mais c'est vrai que dans ce roman, les chevaux ont une grosse importance.
Ah, ben bien sûr.
À l'époque, on se déplaçait qu'à cheval.
Oui, hein. Et puis en plus de ça, dans le roman, t'as vu, il y a énormément de cavalcades. Hein,
oui, hein, oui, c'est ça.
Mais c'est vrai, on se déplace à cheval. Hein,
voilà. Oui. Alors bon, Albert Duclos et Dame de Fontaine, je pour savoir comment ça se termine, il faudra...
le lire.
Voilà, si vous ne l'avez pas encore procuré, vous pouvez le faire. Et comme on dit, il est dans toutes les bonnes librairies.
Oui, et en particulier à Craponne, il est au Plaisir des mots.
Voilà. Alors, tu sais que c'est la question bateau, ça, mais chaque fois que je reçois un écrivain, je dis... Je sais qu'il y a toujours un roman qui est en gestation. Je pense que toi, tu fais pas, tu fais comme les autres.
Absolument. mais il est plus qu'en gestation. Il est écrit.
Ah, déjà ?
Oui, il est chez l'éditeur même. Donc, il va sortir au mois de janvier. Alors, en gestation, c'est celui de 2024. Je travaille sur celui de 2024
d'accord.
En ce moment-là. Et alors, celui qui va sortir en janvier, c'est un roman qui est très différent. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est passionnée de musique. Et au cours d'une promenade dans les forêts du Mézingue, elle va, sur les pentes du Mézingue, elle va découvrir une vieille ferme qui est un petit peu éboulée, même plus, quoi. Et puis là, elle découvre la sonorité de ces vieux murs, de ces vieilles pierres, et elle va décider de travailler, d'en faire une résidence pour scolaires, enfants et adolescents qui veulent apprendre la musique. Voilà.
D'accord.
Alors, c'est un roman qui est totalement différent. Et moi, je veille toujours à ce que mon nouveau roman soit vraiment nouveau. Un thème nouveau, un lieu nouveau, une intrigue nouvelle.
On reste toujours en Auvergne.
Oui, oui, ah bah oui, bien sûr.
Ah.
Bah oui,
pas... Et 2024, tu as déjà l'idée ?
Oui, oui, 2024, alors là, c'est différent, je n'avais encore jamais écrit ça. C'est l'histoire d'un peintre, voilà.
Ah, d'accord.
C'est l'histoire d'un peintre, voilà.
Très bien, bon, bah, écoute, Albert, merci d'être venu.
C'est moi qui te remercie de m'inviter.
Ah bah non, c'est normal, hein, depuis le temps. Et puis, tu sors toujours des romans, on sait que tu es beaucoup aimé, donc c'est bien que tu viennes en parler un petit peu. Donc, je rappelle, Albert Duclos, Les Dames de Fontange, hein. Aux éditions de Boré. Eh bien, on va se quitter, nous, cet été du jeudi. On a parlé de chasse à cour, hein. Donc on va écouter un petit peu de musique.
De chasse.
Ouais, un petit peu de cor de chasse. On ne peut pas passer à travers, hein.
Bah,
c'est normal. Voilà, donc on va terminer cette émission avec Albert Duclos. C'est un petit peu de son de corde chasse. Son roman Les Dames de Fontange. Alors vous savez, cet invité du jeudi est diffusé tous les jeudis à 15h, mais également rediffusé lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Hein, voilà. Eh bien écoute, Albert, merci. Et puis on se retrouve.
C'est moi qui te remercie.
L'année prochaine.
Oui, bien sûr, pas de problème.
Pour parler musique, là,
voilà,
ça
exactement.
Va parler. Merci.
Ah, d'ailleurs, le titre, hein, je te donne, c'est le piano dans la forêt.
Ah, le piano dans la forêt. Eh ben voilà, on est avant-première.